Vous écoutez RFI, la radio du monde, il est 21h en temps universel, et à Noumabo, chez Assalfo, et à Conakry, chez Black M, et 22h à Vigneux-sur-Seine, en banlieue parisienne. Et le journal est présenté par Mathis Limano. Bonsoir Mathis.
Bonsoir Claudicia, bienvenue à toutes et à tous. En Turquie, l'opposition appelle à un très large rassemblement samedi à Istanbul, toujours en soutien au maire de la première ville du pays qui s'apprête à passer une nouvelle nuit en prison. Dans la rue, la répression s'accentue. Plus de 1400 interpellations depuis le début du mouvement. L'ONU se dit très préoccupée et demande des enquêtes. Parmi les personnes arrêtées, des journalistes. On en parle dès le début de ce journal. Est-ce le début de la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Après plus de 3 ans de conflits de haute intensité, un premier accord de trêve obtenu ce mardi par les États-Unis. Il prévoit l'arrêt immédiat des combats en mer Noire. La plus grosse bourde de l'histoire militaire des États-Unis. Comment des plans ultra confidentiels ont pu atterrir sur le téléphone d'un journaliste? On vous explique tout. Et puis une rappeuse qui monte fort, John Glacier. On écoute ça en fin d'édition. Le directeur de l'agence France Presse appelle à la libération immédiate de Yasin Akgul, le photographe en Turquie de l'AFP, arrêté et placé en détention pour avoir couvert les manifestations massives en soutien au maire d'Istanbul. Son incarcération est inacceptable, c'est pourquoi je vous demande d'intervenir au plus vite, souligne Fabrice Free dans une lettre adressée aux autorités turques. Outre Yasin Akgul, 6 autres journalistes sont accusés par les autorités de participation à des rassemblements illégaux. Une décision jugée scandaleuse par l'ONG Reporters sans frontières. Les précisions de Daniel Valo.
C'est ce lundi à l'aube, à leur domicile, que les journalistes ont été arrêtés. Parmi eux, des photoreporters chevronnés dont le travail a été primé à plusieurs reprises et qui ont couvert pour leurs médias respectifs les manifestations qui ont suivi l'arrestation la semaine dernière d'Ekrem İmamoğlu. Pour Erol Onderoglu, représentant en Turquie de Reporters sans frontières, il y a clairement une volonté des autorités turques d'empêcher la couverture par la presse de la contestation.
Non seulement une décision scandaleuse, mais en plus des méthodes inédites, c'est du jamais vu et ça donne une idée du risque que la justice turque prend ces jours-ci pour incriminer les représentants des médias. Il y a bien évidemment des manifestants interrogés ou incarcérés, mais le fait qu'on met dans un même lot des photoreporters, des journalistes sur place, révèle une stratégie assez ciblée qui vise à réduire au silence ceux qui sont dans la collecte de l'information pour mener à bien donc cette répression dans un climat sans témoin.
Et le syndicat des journalistes turcs dénonce lui aussi une décision illégale et rappelle qu'il est parfaitement normal pour un journaliste de se rendre sur les lieux d'une manifestation pour pouvoir en rendre compte.
La mobilisation en Turquie qui ne s'essouffle pas, de nouvelles manifestations aujourd'hui et à l'instant. Le CHP appelle à un rassemblement massif samedi à Istanbul. Le parti d'opposition dont le très populaire maire d'Istanbul est en prison depuis maintenant 3 jours. Ce soir, Paris appelle la Turquie à se comporter comme un grand partenaire démocratique et appelle à la remise en liberté de l'édile. Après 2 jours de navette diplomatique, la Maison-Blanche arrache un accord entre Kiev et Moscou qui doivent immédiatement cesser les combats en mer Noire. Alors est-ce un premier pas vers un cessez-le-feu global en Ukraine? Élément de réponse avec Anastasia Becchio.
C'est d'abord la Maison-Blanche qui a dévoilé l'accord, ou plutôt les 2 accords conclus séparément avec la Russie et l'Ukraine. Les documents ont été publiés sur le site de la Maison-Blanche. Le premier paragraphe est identique dans les 2 communiqués. Chacun des 2 pays accepte d'assurer la sécurité de la navigation, de supprimer l'usage de la force et d'empêcher l'utilisation de navires commerciaux pour des objectifs militaires en mer Noire. 2 autres points sont similaires. Les États-Unis et l'Ukraine, ou la Russie, ont convenu d'élaborer des mesures pour mettre en œuvre l'accord visant à interdire les frappes contre les installations énergétiques. Cet accord conclu le 18 mars n'a pour l'instant pas été suivi des faits, les bombardements ayant continué de part et d'autre. La présidence américaine précise par ailleurs avoir décidé avec Moscou et Kiev de mettre en place un mécanisme de contrôle de la trêve, se félicitant des efforts de pays tiers visant à faciliter l'application des accords sur la navigation en mer Noire et les frappes sur les installations énergétiques. Côté russe, le Kremlin a publié un communiqué dans lequel il met une condition condition, la trêve en mer Noire n'entrera en vigueur qu'après la levée des restrictions occidentales sur le commerce de céréales et d'engrais russes.
Rendez-vous est maintenant donné à Paris pour Volodymyr Zelensky et ses alliés. Un sommet prévu jeudi dans la capitale française. Le président ukrainien qui veut sonder qui est prêt à envoyer une force de la paix en Ukraine, une hypothèse toujours rejetée par Moscou. Un simple pépin sans gravité, d'après Donald Trump. Une tentative de diversion, selon ses communicants. La Maison-Blanche contre-attaque après la fuite spectaculaire de plans militaires divulgués. Un journaliste américain ajouté par erreur à une boucle de messages. Ces plans concernent les bombardements déjà menés au Yémen. Quelques heures avant ces attaques, un texto du secrétaire américain à la Défense invitait le journaliste sur la messagerie cryptée Signal à participer à une boucle de discussion détaillant le plan d'attaque de Washington. L'opposition démocrate au Congrès n'a pas tardé à réagir en réclamant une enquête et fustige l'attitude négligente et incompétente des lieutenants de Donald Trump. Dominique Dezonnet.
Cette affaire, en définitive, tient plus à une erreur humaine qu'à un défaut de sécurité intrinsèque à l'application Signal. Concrètement, pour se connecter à un groupe de discussion sur la messagerie cryptée, vous devez au préalable recevoir une invitation éphémère, souvent diffusée par SMS. Cette invitation génère un code à 4 chiffres de manière aléatoire qui doit correspondre au nombre que possède le responsable du groupe de discussion. Et une fois connecté, la confidentialité des échanges chiffrés de bout en bout est garantie aux abonnés du groupe. Le rédacteur en chef du magazine The Atlantic indique qu'il n'est pas rare que des hauts responsables américains communiquent sur Signal pour planifier par exemple des réunions. En revanche, pour discuter des activités militaires, ils sont tenus de se rendre dans une installation d'informations compartimentées sensibles. La plupart d'entre eux disposent d'un espace pour ce système à leur domicile. Les démocrates au Sénat américain exigent une enquête complète, ajoutant que la sécurité nationale est entre les mains de parfaits amateurs. La Maison-Blanche a répliqué qu'aucun secret d'État n'avait été divulgué sur Signal susceptible de compromettre la sécurité des États-Unis.
Et dans cette boucle Signal, bien évidemment, le vice-président J.D. Vance, qui se rendra vendredi au Groenland, le territoire autonome du Danemark convoité par Donald Trump. J.D. Vance suit donc sa femme, la deuxième dame des États-Unis, dont la visite était déjà programmée. Il y avait tant d'excitation autour de la visite de Shah que j'ai décidé que je ne voulais pas la laisser s'amuser toute seule, a écrit le vice-président sur son compte X. Michel Platini et Sepp Blatter, de nouveau acquittés au terme d'une procédure qui aura duré près de 10 ans. L'accusation d'escroquerie pour laquelle l'ancien international français, l'ex-président de la FIFA, encourait 5 ans de prison est rejetée par la justice suisse. Aujourd'hui, mon honneur est revenu et je suis très heureux, a réagi Michel Platini. Le ministère public dit réfléchir à un éventuel recours en cassation devant le tribunal fédéral suisse. Fin de cette édition internationale, mais avant de se quitter, de la musique avec John Glacier. Contrairement à son nom, c'est une femme, une rappeuse. L'énigmatique étoile montante du hip-hop britannique signe un deuxième album, Like a Ribbon. Ouvrez bien vos oreilles, c'est avec José Marinho. If you're looking for a home, I'll protect you.
Elle dit avoir 20 000 ans et John Glacier, ce n'est pas non plus son vrai nom. C'est tout ce qu'on sait sur l'identité mystérieuse de cette rappeuse anglaise qui rattache le rap alternatif au trip-hop et au punk. Grandir dans un quartier d'immigrés à Londres a façonné la plume de cette artiste d'origine jamaïcaine, fille d'épicier. Ses textes poignants parlent de la place des étrangers dans un monde incertain. Ce disque regorge de poésie militante et de sons organiques. On y entend tout, jusqu'aux doigts sur les guitares qui relient ce slam engagé à la scène rock. Écoutez. John Glacier débute sa carrière en 2020 en postant sur les réseaux sociaux ses maquettes artisanales. Depuis, ses titres gardent volontairement ce côté inachevé, fragmenté et fragile. Avec cet album, elle dégage une perfection stylistique qui rencontre le son de 2025, voire le dépasse.
Like Like a Ribbon, le deuxième album de la rappeuse britannique John Glacier que vous entendez actuellement. Elle est en tournée mondiale et sera en concert aux Pays-Bas le 3 avril. RFI, il est presque 22h10 à Paris, une heure de moins en temps universel.